Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Bruno Latour, qui nous fait le grand honneur de venir parler ce soir ici. Vous savez tous certainement, et je parle tout de suite de la chose qui vient de sortir, du livre qui vient de sortir, Face à Gaïa, 8 conférences sur le nouveau régime climatique, ce beau livre que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire intégralement, qui est sorti la semaine dernière, et qui sera en toile de fond, je pense, de la conférence d'aujourd'hui, mais croisé avec aussi l'encyclique du pape, Laudato Si. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais quand même dire quelques mots pour le présenter. Je pense qu'il est bien connu, mais parfois il est utile aussi de le présenter. Donc il est à la fois sociologue, anthropologue, spécialiste de philosophie des sciences. Bruno Latour enseigne à Sciences Po, il voyage beaucoup, je crois que vous partez encore demain matin aux aurores, d'après ce que j'ai compris. Et quand on voit un peu votre parcours, peut-être que tel ou tel d'entre vous, vous avez pu lire l'article de janvier 2015 dans Les Études, qui évoque un peu votre parcours et les différents sujets de réflexion pour vous. On ne peut qu'admirer la diversité des domaines que vous explorez, que vous mettez en relation, de façon parfois peut-être inattendue pour nous. Mais précisément, c'est peut-être cela qui va nous dépayser, nous ouvrir un nouveau regard, et je m'en réjouis. Pour évoquer d'un mot ces domaines, je rappellerai tout d'abord, et j'avoue l'avoir découvert en lisant cet article, que votre thèse portait sur Bultmann, exégèse et ontologie. Il est évident qu'on ne voit peut-être pas au premier abord le rapport avec vos intérêts actuels concernant la philosophie des sciences, bien sûr, l'anthropologie aussi, et notamment donc l'écologie, pris en un sens large. Et ce titre, qui vous a peut-être paru un peu énigmatique, « Face à Gaïa », 8 conférences sur le nouveau régime climatique. Je crois que face à Gaïa, bon, peut-être avez-vous un peu entendu parler de l'hypothèse Gaïa, mais peut-être aussi que le titre de la conférence est pour vous un peu énigmatique. Enfin, j'ai eu quelques questions, c'est pour ça que je le dis. L'invocation de la Terre sœur à l'époque de l'Anthropocène. Alors, je crois que nous allons laisser Bruno Latour nous expliquer exactement ce qu'il entend par là. Au fond, ça nous fait beaucoup de bien de nous laisser dépayser, je pense, d'entrer aussi dans votre recherche, dans votre exploration précisément de ce nouveau concept Gaïa et de la portée que ça peut avoir et de la manière dont ça peut aussi croiser ce que vous appelez le cri, la clameur dont parle le pape François dans l'encyclique Laudato Si. En tout cas, je vous remercie très vivement par avance et nous vous écoutons avec joie.
Merci, Madame le Doyen. Mon problème, je crois, c'est qu'effectivement, je fais beaucoup de choses que les autres trouvent énigmatiques, alors qu'elles me paraissent à moi de...
Vous avez comme consigne... Ah, pardon, personne n'a rien entendu au début, mais ce n'est pas grave. J'avais demandé comme consigne qu'on ne cite pas du tout le... le cantique des cantiques. Et donc, j'ai été rappelé à l'ordre par le pape, parce que l'encyclique porte dans son titre, c'est totalement inhabituel, d'après ce que j'ai compris, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. Alors ça m'était plus familier. La maison, l'oïkos, qui a donné l'écologie et l'économie, nous la connaissons bien, nous, en sciences sociales ou en philosophie de l'écologie, ça ne pose pas de problème. Et je sais assez d'histoire de l'Église pour savoir que économie a été aussi le grand terme de la grande théologie orthodoxe, de la grande dispensation des pères, et qu'il y a donc dans l'économie du salut une force extraordinaire que l'économie, comme science économique, a quelque peu gardée, hélas, si on peut dire, ou pas assez. Donc oikos, sa maison, ça m'allait très bien, et commun aussi, puisque non seulement ça fait référence aux commons, à cette grande tradition qui redevient d'ailleurs à la mode en philosophie politique, mais c'est aussi dans les travaux que j'avais faits en politique de la nature, la définition de la politique que j'avais essayé de travailler sous l'expression composition progressive d'un monde commun. Composition, et donc ça veut dire que le monde commun n'est pas donné, qu'il faut le composer. Et c'est comme ça que j'ai entendu le terme maison commune. Composition progressive d'un monde commun, qui s'oppose donc à l'idée qu'il y a déjà un monde commun, le monde naturel, je vais y revenir, et que c'est ça qui nous donne une communauté. Mais j'avoue que j'ai été complètement stupéfait de lire dans le premier paragraphe, malheureusement je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que le premier paragraphe, ce soir, « Loué sois-tu, mon Seigneur », donc c'est Saint François qui parle, « pour, les mots sont importants, sœur, notre mère, la terre », et la phrase suivante, le membre de phrase suivant est important, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Donc les fleurs colorées et l'herbe, ça rentrait un peu dans le côté un peu gentillet du cantique. Mais gouverner, soutenir et gouverner, et surtout, sœur, notre mère, la terre. Et donc ce que je voudrais essayer avec vous ce soir, c'est de tester cette innovation théologique et anthropologique majeure, il me semble, de revenir ou de restituer ou de réinstaurer cette idée très étonnante de mère-sœur, terre qui gouverne et nous soutient. La terre-mère, c'est un vieux thème anthropologique qui est beaucoup travaillé, en particulier en Amérique latine, c'est même devenu une forme juridique très important dans la constitution de certains pays, sous le nom de Pachamama. Et évidemment, c'est un terme qui a été très souvent attaqué, notamment dans la théologie ordinaire, comme une forme de paganisme. Donc c'est déjà très intéressant de voir le pape citer positivement et revenir plusieurs fois sur ce terme de terre-mère. Mais je crois que terre-sœur et sœur-mère, ça c'est une innovation complète. J'ai interrogé plusieurs anthropologues sur cette mère, sur cette terre-sœur, et ils n'ont pas beaucoup trouvé de littérature pour m'aider et pour voir d'où pouvait sortir cette idée de sœur. Il y a un très joli petit livre sur le Cantique des Cantiques, Delhomme qui travaille cette affaire de sœur, mais c'est quand même très rare. Évidemment, la terre-mère, c'est un peu embêtant parce qu'on voit bien que la mère, c'est aussi ce dont on doit quitter. La catastrophe, c'est de rester chez ses parents, quand même. C'est d'avoir ses parents sur le dos. Tandis que les sœurs, j'en ai une ici, de mes 5 sœurs, il y en a une ici. Donc pour moi, les sœurs, ça dit quelque chose de très important. Ce sont des êtres dont on n'est pas exactement dépendant, qu'on ne quitte pas non plus et qu'on accompagne latéralement, en quelque sorte, d'un réseau de soins. Donc c'est une figure complètement différente de la mère, qui peut être marâtre, qui peut être abusive, etc. Les sœurs aussi peuvent être abusives, bien sûr. Mais c'est un rapport latéral, et c'est un rapport dont on ne sort jamais. On quitte sa mère, ses parents meurent, et on passe à autre chose, c'est donc une continuité de génération. Mais les sœurs, cette espèce de fratrie qui avance dans le temps à peu près à la même vitesse, ça je pense que c'est nouveau. Et évidemment, complètement nouveau, et probablement nouveau, c'est dans Saint François, mais nouveau comme thème de théologie politique, c'est nous soutenir et nous gouverner. C'est-à-dire une terre qui est à la fois ce sur quoi nous reposons, et gouverner veut dire quelque chose d'assez clair, ce sous quoi nous nous trouvons d'une certaine façon, et que nous avons en quelque sorte à honorer. Donc ce problème de théologie politique, et je vais le prendre en théologie politique, je sais par mon propre travail sur les modes d'existence que quand on parle de sujets religieux, il faudrait changer la tonalité de la parole pour adresser et s'adresser aux êtres religieux dans leur langue, mais évidemment ça n'aurait pas beaucoup de sens, il y a beaucoup de spécialistes de ce prêche ici, et parce que je suis moi-même philosophe et anthropologue et que je n'ai pas l'autorité du prêche. Mais enfin, pour faire entendre ces êtres, il faudrait évidemment leur parler dans d'autres conditions de félicité. L'un des commentateurs de l'encyclique me dit qu'en fait, il faut comprendre cette encyclique comme une série d'exercices spirituels, que c'est une procédure d'exercice spirituel dans la grande tradition d'Ignace de Loyola, donc il faut la lire d'une certaine façon. Je vais la lire en quelqu'un d'amateur, mais intéressé par la théologie politique. La théologie politique s'intéresse à reconstituer, disons, les peuples qui sont installés ou qui sont instaurés ou qui sont convoqués par, d'abord, un certain type de divinité, une autorité suprême. Donc, quand on dit « qui vous gouverne et qui vous soutient », on met en place quelque chose comme une autorité suprême qui est tout à fait intéressante et qui, à ma connaissance, n'avait jamais été prononcée, ça c'est, on en discutera, dans un cadre, doctrinal. Beaucoup de gens en Amérique latine parlent de Pachamama, mais ça ne vient pas de la fenêtre du Vatican ex cathedra et sur le monde entier. Donc le lieu d'autorité d'où cette phrase est reprononcée est quand même absolument stupéfiant. Deuxième élément de la théologie politique, c'est un principe de peuplement, une définition d'un certain peuple. Le peuple en question, c'est évidemment dans la suite du texte, de façon normale et classique, les enfants de Dieu, mais c'est aussi les frères et sœurs, fils de la terre mère et frères ou sœurs, je suppose, de la terre. Et ça, c'est une convocation, si on fait de l'anthropologie ou de la théologie politique, d'un certain type de peuple, qui s'oppose évidemment à d'autres types de peuples. Et c'est ça qui m'intéresse. La théologie politique compare des façons de constituer des peuples sous l'autorité d'une autorité suprême. Troisièmement, c'est aussi une nouvelle position temporelle. Et je pense que c'est ça qui est tout à fait extraordinaire dans cette encyclique, qui fait qu'elle embarrasse d'ailleurs à droite comme à gauche les écologistes, ceux qui ne croient pas à l'écologie. Et dans mon expérience, elle embarrasse pas mal de catholiques qui ne comprennent pas du tout pourquoi le pape se mêle de choses qui sont hors des questions vraiment importantes comme celle des mœurs. Et vous avez peut-être vu dans le New York Times cette réflexion d'un cardinal américain qui n'est pas, disons, dans la partie avancée du cardinalat, mais qui disait évidemment le pape a eu un immense succès aux États-Unis, il n'a parlé que de choses écologiques et sociales. S'il avait eu le courage de parler des vraies questions, c'est-à-dire celles des mœurs, là, ça aurait été vraiment bien. Mais disons, il s'est fait un peu facilement l'avocat de choses faciles, comme si l'écologie était facile. La position temporelle, très étrange, c'est ce rebroussement, ce point de rebroussement, dirait Peggy, dans lequel, brusquement, une définition d'une conversion, puisque c'est un appel à une conversion, c'est un texte de combat, mais aussi un texte de conversion, se trouve en résonance avec un autre point de rebroussement qui, c'est ce que j'avais mis dans le titre, au risque de rendre mon titre doublement énigmatique, Anthropocène. Mais il faut que nous nous familiarisions avec ce terme d'anthropocène, puisque c'est un terme de géologie, demandé par les géologues, mais qui prend un sens évidemment philosophique et anthropologique, pour définir une ère ou une période, une époque, ça n'est encore pas décidé, de la Terre, où les humains ont pris une place, disons, une force telle qu'ils sont à l'échelle des phénomènes géologiques qui servent d'habitude aux géologues à nommer les autres époques. Et donc Anthropocène, disons, accumule beaucoup de critiques, mais aussi accumule toute une espèce d'énergie de gens qui essaient de comprendre le zeitgeist, le moment où nous sommes. Si nous sommes dans l'Anthropocène, il y a un point de rebroussement qui fait que, devenant une force géologique, les humains en masse devenant une force géologique, doivent repenser en quelque sorte leur position dans l'histoire. Et donc, on a cette surprise d'une encyclique qui est anti-moderne, ce que les encycliques, finalement, ont toujours essayé d'être, mais brusquement alliée au même point de rebroussement que ce qu'il y a de plus avancé, curieusement, en science, aussi bien qu'en politique. que ça soit, c'est pour ça qu'on a souvent, parfois certains ont dit, mais c'est quand même incroyable de publier au Vatican le nouveau manifeste du Parti communiste. Ça fait très longtemps que dans la bourgeoisie française, on dit c'est, le pape est devenu communiste, il est devenu pour de vrai. Et donc, ça y est, on a un tract tout à fait étonnant, un texte de combat. Mais non, parce que le manifeste du Parti communiste était toujours dans ce mouvement en avant, ce n'était pas le point de rebroussement. Ce n'était pas ce point de rebroussement où, curieusement, un texte anti-moderne se trouve en résonance, cette fois-ci, non pas avec l'habituelle poussée vers l'avant à laquelle nous sommes habitués, qui devient, pour les géologues comme pour les climatologues, une utopie. Donc c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois, il y a des gens qui lisent le texte de l'encyclique en disant « c'est pas du tout l'objet du pape d'en parler », et puis brusquement, des gens qui sont absolument inintéressés, qui de leur vie n'ont jamais imaginé de lire une encyclique ou de s'intéresser à ce que le pape peut dire, qui brusquement disent « ah mais c'est le même point de rebroussement que ce que nous sommes en train, nous activistes, nous écologistes, nous sommes en train de penser ». Et donc c'est ce rapprochement entre le moment qu'on qualifie d'anthropocène et l'apparition en juin de cette encyclique, évidemment liée, comme vous l'imaginez, à la conférence de décembre à Paris, qu'on appelle la COP 21. Donc, c'est une autre. Si on prend les différents traits d'une théologie politique, c'est un dieu, enfin une divinité ou une autorité supérieure particulière. On ne sait pas encore son nom, mais disons, elle est sœur et mère et elle nous gouverne. C'est un type de peuplement distinct. On ne sait pas du tout qui ils sont, mais ils sont frères, fils de Dieu et frères de la terre. Drôle de chose, ça. Hein. Troisièmement, ils sont dans une position temporelle, c'est un point de rebroussement, on peut dire conversion. Tout le monde a été sensible au caractère spirituel, évidemment, de l'encyclique. Quatrièmement, c'est aussi une nouvelle accroche territoriale. C'est extraordinairement surprenant de voir l'encyclique parler avec beaucoup de termes du sol. Je fais ici allusion au travail qui est fait dans cette maison sur la théologie du sol, de l'eau, de la finance, de la beauté des paysages, chose assez étrange, intéressante, des ressources naturelles, de l'habitat, connu par les sciences et évidemment du climat. Alors évidemment, si vous lisez les prédécesseurs de François et si vous lisez les textes qu'il cite, ceux de Benoît comme ceux de Jean-Paul II, il y a évidemment beaucoup de mentions de la création. Mais là, ce n'est pas exactement pareil. Là, c'est un sol. C'est une dimension matérielle du cosmos qui est évidemment spirituelle, mais qui est re-territorialisée, si je peux dire, qui est nourrie d'un appel constant aux sciences, ça c'est très intéressant, et qui n'apparaît pas simplement comme création, je vais revenir sur ce point tout à l'heure, mais comme un cosmos rematérialisé, un cosmos concret. On nous parle d'habitation, de bidonville, d'eau, d'accession à l'eau, etc. Et évidemment, c'est la grande transformation pour les écologistes, la grande surprise des écologistes, des inégalités et de la pauvreté avant tout. La clameur, la grande clameur dont parle le pape deux fois dans le texte, c'est la clameur de la terre et des pauvres. Donc là, il y a un court-circuit, c'est pas des humains classiques, c'est pas la nature classique, c'est deux êtres assez nouveaux qui sont en train de à la fois rendre un cosmos à la théologie et rendre un peuple de pauvres présent sur la scène de la théologie politique. Et donc, je pense qu'il y a une réouverture de la théologie politique dans ce texte. Encore une fois, je parle de théologie politique parce que je n'ai pas ni l'autorité, ni le lieu, ni l'onction pour... je cherchais le mot, l'onction pour en parler de façon qui respecterait les êtres de la religion, les êtres de REL dans le langage de l'enquête, mais je pense que c'est quand même une réouverture très importante, c'est un nouveau démos, un nouveau peuple, c'est une exploration de quelque chose qui va obliger les théologiens à redéfinir un théos, parce que ce Dieu, mère, sœur, c'est quelque chose qui ne rentre pas facilement tout de suite dans la théologie classique, et ce n'est pas non plus un retour du paganisme, entre guillemets, ça n'aura aucun sens. En tout cas, c'est sûrement un nouveau cosmos, parce qu'il est rematérialisé de mille façons, de façon très surprenante. L'esthétique de de cette encyclique est très étonnante, parce qu'il y a des moments où vous dites, mais c'est du monsieur Hulot. Bah, c'est très curieux. Enfin, cette espèce, si vous comparez avec le texte de Benoît XVI, qui est un texte magnifique, d'une érudition splendide, mais complètement différent comme monde, comme description du cosmos, de celui de François. C'est un nouveau nomos, c'est-à-dire le sol qui va donner la loi, puisque nous sommes tenus par cette terre à laquelle nous devons et qui nous soutient et nous gouverne. C'est une position très étrange. Et gouverner doit être pris au sérieux. Évidemment, c'est un certain kairos, un moment que le pape dit, si vous ratez ce moment-là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et ça résonne exactement dans des termes qui sont semblables par l'énoncé, mais semblables par l'urgence, avec ceux des scientifiques qui parlent de ce même moment sous le nom d'anthropocène. Si vous lisez ceux qui travaillent sur la notion de grande accélération, c'est la même chose. Ils disent, si vous ne comprenez pas, si vous ne reconnaissez pas les signes du temps, vous êtes en train de commettre quelque chose, je crois on a le droit d'appeler un crime. Mais évidemment, il y a quand même un conflit très étrange, j'espère qu'on va pouvoir en parler, de Dieu, entre ce fils de Dieu et frère de la terre. Je signale d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse avant de passer à des choses un peu plus difficiles, mais jusqu'ici ça n'a rien d'énigmatique. C'est quand même assez extraordinaire qu'on a bouffé du curé pendant 2 siècles sur l'argument suivant. Vous annoncez le ciel pour dissimuler aux pauvres que les puissants les exploitent. Et donc, revenez sur terre et réalisez, par une expression souvent utilisée, matérialisme, que ceux qui regardent le ciel sont soumis à une illusion et que cette illusion doit être renversée. Disons, on peut dire que tout sentiment anti-religieux depuis le XVIIIe siècle, tout le XIXe siècle, tout le XXe siècle porte là-dessus. C'est-à-dire cette accusation portée sur le fait qu'il ne faut pas regarder en l'air, il faut regarder sur terre, puisque ceux qui vous appellent à regarder en l'air dans des sermons innombrables, eh bien, en quelque sorte, vous injectent le fameux opium du peuple. Et brusquement, quand on lit l'encyclique, on s'aperçoit d'un mouvement exactement le même, sauf que ceux qui sont accusés de regarder en l'air et de ne pas regarder sur terre, ce sont ceux, justement, qui jusqu'ici bouffaient du curé, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'accusation est maintenant portée contre les matérialistes, c'est un terme assez vaste, d'être extraordinairement éloignés de la terre. Et brusquement, on a cette situation complètement bizarre d'avoir un pape à l'intérieur du Vatican qui, au lieu de faire ce fameux signe qui, les yeux révulsés, extasiés, nous tournerait vers le ciel, désigne du doigt, ce doigt ne désigne plus le ciel, mais désigne les utopistes, les matérialistes, qui nous ont mis dans une situation de crise de la maison commune, et le doigt du pape, je suis navré de le dire, il fait ça. Le doigt du pape désigne la terre. Et donc, brusquement, ceux qui bouffaient du curé et qui regardaient au fond en l'air s'aperçoivent que c'est très difficile d'être matérialiste. Qu'il n'y a rien de plus difficile d'être matérialiste. Et au fond, c'est ça ce que dit le pape. Redevenez, alors matérialiste évidemment ça ne serait pas le terme, mais la matière dont il s'agit, la matérialité, si nous voulons faire l'opposition entre matière et matérialité, la matérialité dont il s'agit, c'est d'abord la pauvreté. Et ça c'est une figure du terrestre, qui est évidemment très ancienne et qui a une longue histoire dans la religion chrétienne bien sûr, mais elle est chargée, ce pauvre, est chargé du climat, de l'eau, du sol, de l'agronomie, de l'agriculture, de ce qu'on mange, de ce qu'on habite, etc. Donc c'est un pauvre qui n'a plus du tout la même figure que la figure usuelle. C'est un pauvre, alors pour le coup, très proche, évidemment, de Saint-François. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on est à front renversé. Parce que du coup, ce sont ceux qui visent, disons, ceux que le pape accuse dans un texte de combat d'être responsables, au fond, d'une espèce de télédéchargement offshore, en quelque sorte. Voyez le passage assez étonnant sur la finance. Au fond, le pape dit, vous les matérialistes, vous avez bousillé la terre. Et vous, les matérialistes, vous êtes offshore, vous n'avez pas de sol. Vous ne respectez pas notre terre mère-sœur. Drôle de chose, ce renversement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, en lisant l'encyclique, et c'est ça qui surprend, dans les alliances sont complètement recomposées entre les modernes, les antimodernes, les écologistes, plus personne ne sait où sont les alliances, parce que, évidemment, on était assez habitué à la grande opposition entre naturel et surnaturel, et on a quand même une pile d'encycliques grosses, hausses comme ça, non, comme ça, pour nous expliquer pourquoi le matérialisme a tout emporté et que les humains ne sont plus les yeux tournés vers le ciel, vers les choses spirituelles, etc. Enfin, ça fait quand même des piles. Et là, brusquement, renversement complet, un pape, il est vrai, d'Amérique latine, je pense qu'il faut mesurer le poids de l'Amérique latine dans cette affaire, bien qu'il paraît que c'est un pape, beaucoup de plumes ont participé à cette écriture, évidemment, qui dit non, non, ça n'est pas, le manque n'est pas d'esprit, le manque n'est pas de spiritualité, le manque n'est pas de regarder vers le ciel contre les excès du matérialisme. Non, non, c'est qu'on n'est pas, on ne regarde pas la terre, mère, sœur. Et la restitution de cette figure, évidemment, ne peut pas surprendre quiconque s'intéresse à la théologie chrétienne, puisque ça s'appelle l'incarnation. Mais c'était une incarnation très désincarnée que celle qui imaginait le surnaturel comme remède au matérialisme. Et là, brusquement, vous avez un renversement qui dit, attendez, l'incarnation, il faut faire de la science pour de l'incarnation. Il faut s'intéresser à l'eau. Il faut s'intéresser au marché du carbone. Il faut s'intéresser au paysage. Il faut s'intéresser aux décharges. Il faut s'intéresser à toute cette multitude qui est, en quelque sorte, l'écho, la maison commune, et en particulier la maison commune des pauvres. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire un renversement complet, non pas ce regard-là, regarder en... Non, non. Et donc là, j'aborde la partie un peu plus délicate, mais qui n'est pas encore énigmatique, je l'espère. J'ai mieux énigmatique que provocateur. D'habitude, on dit toujours que je suis provocateur, ce qui est tout à fait inexact. Et donc, je voudrais mettre... Là, ça va devenir plus technique, je m'en excuse, mais il faut maintenant qu'on essaie de comprendre cette étrange situation dans laquelle le pape nous a mis. Et je voudrais trois concepts. Le concept de nature, parce que je pense que le pape n'utilise pas la notion de nature. Il n'utilise pas, en un certain sens, non plus la notion de création. En tout cas, il recompose, il réagite cette relation. Et le troisième terme, qui est celui plus compliqué, mais je l'ai gardé pour la fin, et si je n'ai pas de temps comme ça, vous n'aurez pas, le terme introduit par Eric Voegelin, immanentisation. Encore une fois, je parle dans un langage philosophique, alors qu'il faudrait évidemment prêcher. Pour parler de ces choses, on peut les saisir que par le prêche, c'est ce que fait le pape. Mais moi, je ne suis pas pape. Enfin, pas encore, en tout cas. Le premier point, c'est sur la nature. Et évidemment, ça rentre dans une multitude de travaux d'écologie, d'écologie politique, d'histoire des sciences, etc. La nature est très peu naturelle. Nous le savons par les anthropologues, nous le savons par les historiens des sciences. Et le travail du pape, en particulier sa restitution des avancées scientifiques, n'a pas de connivence presque dans le texte avec, disons, ce qu'on peut appeler, en prenant l'expression de Philippe Descola, le naturalisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nature, nous le savons maintenant, et je résume toute une série de travaux depuis une trentaine d'années, c'est toujours un amalgame d'une complexité énorme, le concept de nature, j'entends, qui confond ou qui conjoint une procédure de connaissance, c'est-à-dire la façon dont nous autres scientifiques, pédologues, géologues, physiciens ou chimistes, sociologues ou économistes, accédons aux choses, donc le mode d'accès, avec ce dont les choses sont faites. Cette séparation a été opérée par une grande tradition philosophique, dont le siècle dernier a vu à la fois la grandeur et en même temps l'extinction, mais qu'il faut toujours réhabiliter. James, évidemment, Bergson, Whitehead, Ruyère, toute une série de gens qui ont désamalgamé ces deux notions pour bien montrer que lorsqu'on parle de matière, on a affaire à un idéalisme de la matière, c'est-à-dire la fusion d'une procédure de connaissance, comme dit très bien Whitehead, avec la façon dont le monde lui-même se met et se maintient dans l'existence. Deux modes d'existence, dans le langage de l'enquête des modes d'existence, puisqu'il y en a quelques-uns dans cette salle, dont REP et REF, les spécialistes, il n'y a rien de moins inerte que le monde auquel fait appel, le monde connu par les sciences, auquel fait appel le pape dans ses passages, assez nombreux finalement, où il en appelle au pouvoir et aux connaissances des sciences pour rematérialiser cette matière idéaliste, finalement, du matérialisme. Et donc, ce qui est très passionnant, et là il faut ajouter un peu de choses au texte du pape, je le reconnais, c'est que la nature invoquée, d'habitude par les naturalistes, est un principe de gouvernement, est une théologie politique, c'est aussi une morale, c'est aussi un droit. Et c'est ça qui est très beau dans l'opération que fait le pape avec la Terre Sœur, c'est que brusquement vous vous dites, mais attendez, Terre Sœur, c'est quand même très bizarre parce que c'est un personnage. Mais nature est un personnage. Nature est une divinité. Nature est un principe d'organisation politique et morale d'une puissance extraordinaire puisqu'elle unit tous ceux qui font appel à elle. Et donc le naturalisme n'est pas la description d'objets inertes qui seraient tenus par des séries causales et extérieures à nos activités. Je parle du concept de nature, n'est-ce pas ? Ce qui est imposé aux choses que nous connaissons. Mais la nature, c'est finalement une théologie politique, sauf que c'est précisément la théologie politique qui est accusée dans le texte de combat du pape de nous avoir transportés, en quelque sorte, offshore. Ce qui est très bizarre. Les sciences sont détachées, c'est très curieux comme opération, les sciences sont détachées de la nature. Ce ne sont pas des sciences de la nature, il y a des sciences du terrestre, des sciences dont on a absolument besoin pour comprendre ce que c'est que rematérialiser, mais la nature, c'est en quelque sorte une projection ou une simplification de la théologie politique. C'est une providence, au fond, mais sauf que c'est une très mauvaise providence, mal construite et mal pensée. Je reviendrai sur ce point dans le troisième point. Donc ça, c'est le premier élément qui est très... Évidemment, il faudra travailler dans la discussion, mais c'est le premier point que je trouve très, très intéressant. C'est un éloge des sciences, cette encyclique. Ce n'est pas un éloge la nature. C'est quelque chose d'autre qui résonne un peu différemment. De nouveau, je ne sais pas si ça correspond à des traditions d'Amérique latine ou pas, dont le pape serait influencé. En tout cas, on est dans autre chose. Il me semble, tout ça, l'autorité que me donne cette estrade ne doit pas être exagérée. Deuxième élément, c'est cette affaire de création. J'avais très peur qu'on nous fasse dans cette encyclique toute une tartine contre le risque de paganisme. Parce que ça sert, disons, d'écran de fumée depuis le milieu du XXe siècle à la théologie catholique pour ne rien entendre de ce qui se passe en écologie. C'est-à-dire, il y a un danger de paganisme. Ensuite, il y a le danger du panthéisme. Enfin, il y a tout un tas de dangers qui arrivent. Et évidemment, création et l'opposition création-nature peut souvent jouer ce rôle pour stabiliser, qui est au fond presque une variation sur nature surnaturelle, mais un peu plus subtile. Or, évidemment, lorsque la création arrive dans cette tradition, elle arrive sous la forme, et là je suis obligé d'introduire le terme de Haussmann, d'une tradition qui est, le terme de Haussmann est un peu bizarre, mais j'en ai besoin. Lui, il est vraiment énigmatique pour le coup. C'est contre-religion. Le christianisme, comme le judaïsme, est une contre-religion dans ce sens très fondamental qu'il s'oppose ou qu'il se distingue radicalement de ce qu'on pourrait appeler les religions, religions civiques, religions cosmiques, qui s'intéressent évidemment et qui ont en quelque sorte une espèce de préemption sur le cosmos. Lorsque s'invente et se travaille au cours des siècles de théologie et de spiritualité, de rituels et de prières, ces peuples de contre-religion, Assmann dans son livre remonte très loin puisqu'il monte jusqu'au culte d'Aton, mais n'a pas besoin de rentrer dans ces détails, le cosmos arrive comme précisément ce dont il faut s'extraire, puisque ce sont des religions de la fin. Ce sont des religions fondamentalement et profondément apocalyptiques. Donc l'apocalypse, par définition, ce n'est pas un moyen idéal de capter le cosmos dans son caractère ordinaire, terrien, qui se reproduit, qui se refait, qui dure, chose que, évidemment, tous les rituels des religions, et non pas des contre-religions, avaient et continuent de travailler dans mille et mille façons, selon mille et mille rituels, dans mille et mille civilisations que les anthropologues continuent à étudier, mais que les peuples eux-mêmes, dans les innombrables cultures, continuent à maintenir. Lorsque résonne la prédication de la contre-religion, la question de la vérité en religion, c'est évidemment sur le sens du mot « fin ». Fin dernière, mais aussi finalité enfin achevée. Et évidemment, cette tension va se transformer en une mécompréhension. Je crois qu'on peut parler de mécompréhension sur les religions. Les contre-religions vont constamment mécomprendre les religions. C'est ça l'accusation de paganisme. C'est une drôle de chose. On accuse, alors qu'il s'agit de modes d'existence complètement différents. Il n'y a pas de compétition entre les religions et les contre-religions. La contre-religion s'intéresse à cette chose inouïe, c'est que la fin est achevée. Les temps sont accomplis. L'apocalypse est là. Et donc, évidemment, la continuité, le renouvellement, le mouvement dans le temps, les rituels de maintien, tout ça, ça paraît précisément quelque chose dont on n'a pas besoin, dont on pourrait se passer. Donc il y a cette extraordinaire puissance du lien qui va être mal compris, à mon avis, c'était là dont il va discuter, qui va se retrouver dans la contradiction fondamentale entre religion et contre-religion, qui va se traduire dans une dispute entre, le cosmos et l'apocalypse. Disons. Alors évidemment, il y a une scénographie dans l'apocalypse du cosmos, mais ce n'est pas du tout la même chose que le cosmos tel qu'il est maintenu et tenu par les religions, au sens, disons, des grands rituels civiques et des grands rituels cosmiques. On va en fait la transformer en une opposition entre immanence et transcendance, et là les choses vont commencer à devenir très compliquées. On va croire que les contre-religions regardent le ciel, les autres sont en quelque sorte empâtés dans le monde, et qu'il y a toujours un risque d'immanence, d'excès d'intérêt pour le sol. Et évidemment, le grand thème, la grande figuration de cette situation sous le mot d'incarnation va rencontrer directement cette figure de la continuité du cosmos. Et là, il y a une espèce de tension dont on ne va pas sortir. Or, j'ai l'impression, c'est à discuter, c'est pour ça que je prépare la discussion, que dans Laudato aussi, il n'y a à peu près aucun appel au surnaturel. La figure naturelle, surnaturelle, paraît totalement obsolète. Pas un mot là-dessus. Il y a un petit mot sur le relativisme, mais vraiment, service minimum. Comme sur les questions d'avortement, c'est vraiment service minimum du pape François. Il faut le faire, mais vraiment minimum. Et il y a un petit mot sur le danger d'une espèce d'immanentisme qui est très bizarre. La phrase est très alambiquée. On a l'impression d'une phrase qui a été biffée plusieurs fois. Et on a, à la place de l'opposition naturel sur naturel, une coopération, un appel à la coopération pour le maintien de la maison commune entre, la phrase est quand même tout à fait étonnante, les rituels anthropologiques les plus traditionnels, ceux qui justement ont Pachamama dans leur divinité, les sciences, ça c'est quand même assez surprenant pour les scientifiques, de dire, mais oui, venez, venez, vous êtes formidables, vous êtes associés au culte anthropologique traditionnel. Imaginez la sélection que ça fait sur les scientifiques. Je pense qu'il y en a qui sont heureux de cette grandeur, de cet accueil, mais je pense qu'il y en a d'autres qui disent, attendez, ça, nous on ne veut pas de ces gens-là, nous on est naturalistes, on ne veut pas du tout coopérer. Et évidemment, les activistes. Puisque c'est un texte de combat, tous ceux qui s'occupent d'une certaine façon de l'écologie, et évidemment, en première place, ceux qui s'occupent des pauvres. Donc on a une figuration de cette situation très de tension entre cosmos et fin dernière, tout à fait particulière, puisqu'on a, au lieu de l'opposition classique entre, disons, ceux qui seraient trop proches de du sol, en quelque sorte, et ceux qui devraient tourner les yeux vers le surnaturel, on a une proposition de collaboration pour rematérialiser, et l'ennemi commun aux sciences, aux cultures traditionnelles, aux sagesses, dit-il, le pape des sagesses traditionnelles, et évidemment à la grande tradition ecclésiale, et aux activistes, c'est offshore. Ben, le terme n'y est pas. C'est ceux qui regardent précisément en l'air. C'est quand même sensationnel comme transformation. Ça vient du Vatican. C'est-à-dire quand même, il y a un effet de surprise pour des gens... Je perds la tête. Mais quand même, c'est inouï de penser à cette originalité là, à l'intérieur de cette affaire. C'est-à-dire l'irruption, finalement, d'une ligne de combat dans laquelle on a les sciences, non pas naturalistes parce qu'elles ne s'occupent pas de la nature, c'est des sciences de la matérialité, qui collaborent avec les sagesses anthropologiques, qui collaborent avec les activistes, qui collaborent avec la grande tradition spirituelle ecclésiale et qui collaborent essentiellement sur la question des pauvres. Tout ça dirigé vers la Terre. Où est-ce qu'on a vu ça déjà? Ben, on l'a vu, mais dans le Cantique des Cantiques, que je n'avais pas pris assez au sérieux avant. Dernier terme, et j'en ai fini avec les parties délicates, immanentisation. Pourquoi est-ce que, brusquement, maintenant, à ce point de rebroussement qu'on appelle l'Anthropocène, apparaît cet argument, finalement ce front commun, contre des attitudes qu'on appellerait avant progressistes et matérialistes, naturalistes, qui au fond n'ont pas le souci de la Terre, de la maison commune, parce qu'elles sont offshore, elles sont des utopies finalement. Et là, il faut faire le détour, et c'est une chose que les jésuites connaissent bien, puisqu'elle a été étudiée dans un livre admirable du père de Lubac, il faut faire considérer que, brusquement, l'ennemi désigné, c'est le gnosticisme. C'est-à-dire la désignation Alors, c'est très mélangé dans le texte, il y a à la fois la finance, il y a à la fois une certaine façon d'occuper la terre, etc. Mais l'analyse la plus fine du gnosticisme a été faite par Eric Voegelin, sous le terme très bizarre, je m'en excuse de caractère un peu barbare, mais il est important, immanentisation. C'est-à-dire le terme qui désigne le fait que depuis... Alors, passons sur l'analyse historique que le père de Lubac, Eric Voegelin, qui le cite d'ailleurs, font remonter à Joachim de Flore. Mais là, je parle à des spécialistes et je vais dire beaucoup de bêtises, vous me le pardonnerez. Donc, ce n'est pas l'élément historique qui m'intéresse, mais c'est le terme que Voegelin utilise en disant, voilà, il s'est passé quelque chose qui est au fond, dit Voegelin, l'origine de la modernité. C'est être moderne, c'est être gnostique d'une certaine façon. C'est-à-dire cette idée que le christianisme, c'est très bien, mais ça demande une tension insupportable à cause de cette question de la fin. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de douter, d'attendre, de désigner des signes de quelque chose qui est la fin, sauf que ça continue. C'est évidemment le grand thème de Peggy. Ça continue. Ça se répète. Et simultanément, il faut tenir ce truc impossible. C'est fini. Les temps sont accomplis. On est sauvés. Mais ça continue. Le lendemain matin, grand problème de l'Église, comme vous le savez, depuis le moment où on a abandonné l'idée que ça allait se passer le lendemain. Et là commence quelque chose de tout à fait étonnant. C'est, dit, je résume Voegelin un peu rapidement, c'est comment avoir simultanément la certitude du salut et la certitude que ça se passe ici. Création. Je passe sur les détails, il faut lire cet admirable livre qui s'appelle « La nouvelle science de politique » d'Éric Voegelin, mais qui est probablement une des choses les plus puissantes qui ait été écrite sur cette question, commence une définition de l'ici-bas, de la matérialité, de la matière, pardon. L'ici-bas, c'est la transcendance qu'on attend ici. Et techniquement, comme le montre très bien de Lubac, le moment où ça commence à fonctionner, c'est le moment où Joachim de Flore fait des prévisions sur la succession des événements, alors qu'il s'agit, dans, évidemment, l'Évangile, de signes. Cette génération, que demande ? Elle n'aura pas de signes. Si vous commencez à faire ce mélange entre la domestication de la transcendance et l'histoire, vous créez une idée du maintenant, une idée de l'ici-bas, très particulière, qui est au fond l'idée moderne. Cette idée moderne, Voegelin en fait toute l'histoire depuis Joachim de Flore, jusqu'il s'arrête au communisme qu'il a connu et au nazisme dont il a souffert jusqu'aux années 50. Et vous pouvez continuer à le faire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est précisément la définition de l'ici-bas qui est le plus loin possible du terrestre. Et il me semble, c'est une exagération, peut-être, mais peut-être pas, que Laudato si, c'est la première réplique au gnosticisme, qui a contaminé, et là je me lance dans des choses qui sont évidemment à faire dresser les cheveux sur la tête, mais je me permets de le faire par l'amitié que vous me faites de m'inviter, et c'est la discussion évidemment qui va m'éclairer et probablement critiquer tout ce que j'ai dit, mais... Au fond, le gnosticisme a contaminé la théologie avec cette idée de surnaturel. Jamais la théologie, finalement, chrétienne en tout cas, n'a pu résister à la nature, à la théologie politique de la nature. C'est le thème de Face à Gaïa. Elle n'a pas pu résister. Elle n'a pas pu défaire cet amalgame de la nature et elle s'est occupée du surnaturel, dont elle n'avait rien à faire. Le surnaturel n'est pas l'objet de la théologie. Le surnaturel, c'est un artefact dû à l'artefact du naturel. Et donc, c'est deux artefacts empilés l'un sur l'autre. Mais vous pouvez beurrer du surnaturel sur du naturel autant que vous voulez, vous ne supprimerez pas l'artefact. La situation, elle est comme ça. Le fin et la terre. Mais ça n'a rien à voir avec le naturel et le surnaturel. Ça veut dire que c'est tout le thème de la grande théologie de Peggy. C'est dans le naturel, c'est dans le temporel que se situe, évidemment, la rupture radicale de la fin. Si vous transformez ça en naturel et surnaturel, vous avez deux artefacts. L'un qui vous perd les sciences et l'autre qui vous perd la religion. Et vous avez une théologie politique abominable dans laquelle on va se mettre à chercher dans la nature les sources morales et politiques de l'accord des esprits. Et donc, j'ai l'impression, et là on va me dire, mais non, il y a très très longtemps que la théologie réplique au gnosticisme, en tout cas cette partie du gnosticisme qui adhère à la notion de surnaturel, de vérité d'une certaine façon, hein, c'est une drôle de chose. La prégnance du gnosticisme dans l'histoire occidentale, c'est quand même très fort. Et donc, ce qui me fait dire ça, que le texte est une réplique, la première réplique, j'exagère bien sûr, la première réplique au gnosticisme, c'est l'absence totale de critique du paganisme. Il n'y a pas un mot sur le fait qu'il y aurait des gens idolâtres du monde immanent et qu'il faudrait briser ces statues et commencer à regarder des valeurs et suprêmes qui seraient supérieures. Enfin, terre, mère, sœur, s'il y a un fétiche aussi bizarre que ça, c'est terre, mère, sœur. Et ça, c'est célébré depuis la fenêtre du Vatican qui donne sur la place Saint-Pierre. Enfin, vous imaginez ? C'est quand même bouleversant pour un anthropologue, pour l'anthropologue que je suis, je ne sais pas ce qu'en pensent les anthropologues qui sont ici, mais combien de temples, d'hôtels à la terre-mère ont été détruits par les missionnaires ? Combien sont encore détruits par les missionnaires ? Pas les jésuites, bien sûr, mais... et brusquement, réhabilitation, ou plutôt transformation du rapport entre ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, recomposition d'une alliance tout à fait nouvelle entre les sciences, les traditions anthropologiques et les activistes et les spirituels, tout ça regarde vers la Terre. Mais ont dans leur dos ceux qui continuent à envoyer offshore, j'utilise offshore parce que le pape a une obsession contre la finance, donc je trouve que c'est une façon de... Et c'est vrai, c'est un beau terme, offshore. C'est quand même extraordinaire de penser que notre vie dépend entièrement d'un petit nombre de situations offshore. Ouais, tout à fait étrange. Et c'est ces utopistes-là qui voudraient nous apprendre, nous donner des leçons d'ici-bas, qui voudraient nous dire la matière, vous êtes des irréalistes, des utopistes, la matière, nous savons ce que c'est, le monde réel, nous savons ce que c'est. Et ils sont offshore. Oui, extraordinaire. Je conclue pour que nous ayons le temps de discuter. Et donc, je pense que c'est Laudato aussi est une occasion formidable de réfléchir à toutes ces questions de théologie politique et d'anthropologie, en particulier à cause de ce rebroussement, de cette coïncidence entre le rebroussement auquel le pape nous demande. Et c'est plus du tout pareil que de parler de ce rebroussement en collaboration avec celui des activistes, des écologistes, des gens qui parlent du climat, des géologues, etc., sous le nom d'Anthropocène, et d'entendre un cri anti-moderne dans une période progressiste. C'était ça qui faisait qu'on n'entendait jamais rien de ce qui se passait avant. On était dans une période progressiste, il y avait des cris anti-modernes. Là, c'est un cri anti-moderne. Sauf que, brusquement, on dit, ah oui, mais c'est ça la direction. Vous voyez, cet extraordinaire changement de direction. C'est pas, j'essaie d'empêcher quelque chose qui va de l'avant, c'est je rebrousse chemin avec vous. Vous aussi, vous rebroussez chemin. On prétend que M. Hulot, d'ailleurs, a été au Vatican plusieurs fois et qu'il a eu une influence sur le pape. Je dis M. Hulot, je confonds avec l'autre. Et donc, il y a, quelle que soit la façon dont on comprend ces choses, il y a une espèce de re-territorialisation, de sortie, de redécouverte de la Terre, finalement. Souci, sujet, la Terre sujet, au sens sœur, objet de soins et de soucis. C'est quand même tout à fait étonnant, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ma obsession pour les sols et la science des sols, mais vous n'avez pas idée du nombre de réunions d'événements artistiques. À Chamarandes la semaine dernière, une réunion entière d'artistes sur les sols, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que les sols, le nombre de colloques artistiques et d'œuvres artistiques sur l'Anthropocène. Il y a une espèce de redécouverte extraordinairement rapide dans beaucoup de sujets que nous sommes sur un sol. Bon, c'est évident, mais quelle extraordinaire découverte que ça soit pas évident que nous sommes sur un sol. Et combien nous sommes à collaborer pour nous intéresser à ce sol. Encore une fois, les sciences, l'anthropologie, l'activisme, la politique, ça fait du monde. Et cette obsolescence complète du vieux rapport entre... les naturalistes s'occuperaient de la nature objective et puis les religieux s'occuperaient d'autre chose qui serait un peu l'âme, des choses d'en haut. Il n'y a pas d'en haut, il n'y a que la Terre. Mais ce n'est pas la Terre des premiers, ce n'est pas la Terre des naturalistes. Cette Terre-là est immatérielle, elle n'est pas matérialisée, c'est une Terre abstraite, c'est une Terre idéaliste, c'est une Terre offshore, c'est une Terre utopique, c'est une Terre qui n'existe pas, qui n'est pas prise en compte, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de soins. C'est ça le renversement, et il est quand même extraordinaire. Évidemment, c'est un immense chantier, et il ne faudrait pas le traiter comme je le traite dans une parole philosophique, parce qu'il faut aussi multiplier les modes d'existence. Il y a aussi le rituel, il y a aussi les arts, et il y a évidemment la politique, mais ce n'est pas l'objet de cette discussion. Et puis, il y a quelques petits problèmes à résoudre. L'un des problèmes, évidemment, c'est ce qu'on fait de l'humanisme dans cette affaire. Question qui a été adressée au pape plusieurs fois. Il y a un numéro entier de Nature Climate Change sur le pape, dont je vous conseille la lecture, qui est bien intéressant sur cette question. Petite question, par exemple, sa position vis-à-vis de la population. Et toutes les questions qui nous sont habituelles, évidemment, en théologie doctrinale. Mais je ne suis pas compétent du tout pour les traiter. Je vous remercie.
Un très grand merci. Je crois que vraiment vous nous avez fait réaliser, au sens fort du terme, à quel point cette encyclique nous bouscule, nous oblige à un renversement de point de vue. Et il me semble que c'est très heureux de l'entendre de la part d'un anthropologue et que je pense que ça a un écho pour nous tous ici. Ça nous fait peut-être saisir la nouveauté de ce texte auquel nous n'avons peut-être pas été aussi sensibles en le lisant, mais précisément c'est important, je pense. Et je crois que votre parole très forte a certainement eu beaucoup d'écho dans la salle. Et que peut-être tel ou tel point va susciter des questions. En tout cas, je crois que vous les attendez.
J'espère.
Et donc, il y a un micro ici. Sébastien est prêt à prendre les questions.
Sébastien est un exemple, un de mes exemples. Parce qu'il étudie le sol. Voilà. Et là, c'est quand même formidable. Un jésuite spécialiste de la théologie du sol. C'est bien.
Donc les questions sont à l'Assemblée, ou les réactions, ou les demandes de précision, n'ayez pas peur.
Il est allumé là ?
Ouais, c'est bon. Merci.
En fait, j'avais une question par rapport à donc, tout le mouvement que vous encouragez à faire pour, je ne sais pas si c'est le terme, mais sortir de la modernité ou changer de métaphysique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes morales aujourd'hui qui sont faites, par exemple, en faveur des non-humains, qui se basent sur une extension un peu de toute la réflexion morale qui avait été faite sur le sujet à partir de Descartes, qu'on essaye de donner un peu une valeur, par exemple, toute la réflexion pour savoir si on doit donner une valeur intrinsèque aux êtres vivants, donc il essaye d'étendre en fait la pensée de la modernité qui avait été faite pour les humains aux non-humains. Et en fait, j'ai souvent, donc, par exemple, ça va être des arguments qu'on va utiliser pour savoir s'il faut faire des OGM ou tout un tas de choses comme ça, pour essayer d'analyser d'un point de vue éthique des questions de technique, par exemple. Et en fait, j'ai une interrogation que j'ai par rapport à votre travail que je fréquente depuis un petit bout de temps, c'est de savoir dans quelle mesure, si on sort de cette métaphysique, en fait, moderne que certaines philosophies environnementales essaient de prolonger pour faire accéder à un statut, pas de sujet, mais peut-être d'infrasujet des êtres non humains. Si on sort de cette catégorie-là, comment on peut asseoir ce qu'on estime devoir être une critique, par exemple, vis-à-vis des OGM, pour des raisons qu'on estime moralement fondées. Comment on peut avoir un discours critique sur la technique, parce que je sais que vous êtes assez enthousiaste, donc à certains égards c'est intéressant, mais parfois je me demande un peu comment on peut armer une argumentation solide sur des questions qui éthiquement sont cadrées pour être répondues pour être analysées par des modernes. Je ne sais pas si je suis très clair. Peut-être que vous saurez clarifier ma question en y répondant.
Si vous êtes clair et la question est importante, mais vous avez répondu vous-même avec prolongé. Toute cette idée d'une éthique de l'environnement n'est qu'une variation à peine différente, disons, de la position usuelle des modernes. Simplement, c'est un prolongement, jusqu'où on s'arrête. On a l'idée que c'est les humains qui sont porteurs de moralité, ce qui est quand même une chose assez extraordinaire. Comment est-ce qu'on a privé le monde de moralité? D'abord, il faut quand même se poser cette question-là. Et ensuite, les humains sont les acteurs de la moralité, disons, les porteurs de la moralité, des sujets. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'on l'étend, on le sait, disons, aux esclaves, et ensuite un peu plus loin aux animaux, puis ensuite peut-être aux animaux, aux êtres vivants, etc. Et évidemment, moi, je ne reconnais rien de cette affaire. Moi, je suis dans une position différente. Je me pose la question, comment a-t-on imaginé que les attachements dans lesquels nous sommes ne sont pas porteurs de moralité, alors que la totalité de l'ensemble des rituels que nous connaissons dans le monde et des cultures, évidemment, part de l'idée que la moralité, c'est une responsabilité, et donc le mot le dit très bien, une réponse. Mais une réponse à quoi? Mais une réponse à des clameurs, comme le dirait le pape. Le monde clame. Et on y répond, on n'y répond pas. Mais l'idée que la moralité est l'extension des sujets à l'extension plus ou moins, disons, bienveillante, c'est une condescendance particulière. Donc, en tout cas, je n'ai pas d'éthique, moi. Je pense que l'éthique est une erreur de catégorie, disons. Il y a des êtres de la moralité, mais ça, c'est autre chose. Pour répondre plutôt plus pratiquement à la question sur les OGM, il me semble qu'il y a une multitude de scènes où se définit très bien qui sont les ennemis et qui sont les amis sur les OGM. Et je crois que ce n'est pas du tout la peine d'attribuer de la moralité aux OGM eux-mêmes pour arriver à savoir dans quel combat vous voulez, sur quelle barricade vous voulez vous battre. Autrement dit, ce sont des grandes questions politiques de la nature. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul sujet où la morale est fondée, quoi que ce soit. Ce n'est pas un problème de fondement. C'est un problème de désignation des amis et des ennemis, c'est-à-dire un retour de la question politique. Et évidemment, si on est si condescendant avec la question de la morale environnementale, c'est une façon de dissimuler un peu la question politique. C'est-à-dire qui sont les amis et les ennemis des OGM, faisons la carte, désignons les peuples en lutte sur cette question, voyons qui est victime et qui gagne, et je crois qu'on n'aura pas énormément de difficultés à dessiner une géopolitique des OGM où la question de savoir à qui est-ce qu'on attribue des droits, si c'était ça que vous aviez un peu en tête, est moins importante. Ceci dit, la question que vous posez en général est très très importante, évidemment. C'est celle des sujets. Mais si la Terre est ma sœur, c'est un sujet. Et elle porte d'ailleurs, non pas les OGM, mais les herbes, les fleurs, et comment c'est, les fleurs des champs, les fleurs colorées, fruits, fleurs colorées et herbes. Et elle porte évidemment des OGM aussi, cette terre, ma sœur, cette terre. Hein, c'est très bien, d'ailleurs. Il faut peut-être les sélectionner bien. Mais pour ça, il faut faire de la grande politique. Donc, ce n'est pas vraiment simplement une question morale. La question éthique, l'éthique, c'est toujours le moyen d'éviter que la grande question morale se pose à la politique. Donc, je suis sceptique sur cette affaire. Et aussi parce que, évidemment, la nature a une grande vertu morale. Le discours de Monsanto est entièrement que il y a un progrès inévitable et inéluctable qui nous amène à tous utiliser des OGM au nom du progrès de la nature, etc. Donc la nature est un personnage, est une figure morale. Et c'est plutôt, il faut d'abord défaire la figure morale de la nature pour aborder la question très importante que vous posez, je crois. Enfin, c'est un élément de réflexion.
Est-ce que dans la lecture que vous faites de Laudate Si, on ne pourrait pas imaginer que le pape libère les gens, par exemple comme les paysans qui étaient très
pauvres. Comme les quoi ?
Comme les paysans ou les gens qui cultivent la terre, qui sont proches de la terre et qui pouvaient se sentir quelque part hérétiques dès lors que il considérait la terre comme justement la terre nourricière, mais que cette idée, jusque dans les époques très récentes, était un peu hérétique. Et donc, là, tout d'un coup, est-ce qu'il ne va pas libérer justement l'idée que être proche de la terre, finalement, est beaucoup plus naturel qu'on aurait pu le penser, et considérer la terre comme nourricière, c'est-à-dire mère finalement, ou amie, c'est-à-dire sœur, et devient naturel. Et donc il va libérer quelque part des gens qui pouvaient se sentir contraints par notamment la morale de l'Église ou la conception, disons, de l'Église que vous avez très bien décrit entre naturel et surnaturel.
Naturel, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser pour... J'ai une fois posé la question au cardinal Scala de Venise, quand il était patriarche de Venise, qu'est-ce qui reste encore de ces rituels, de ces grands rituels de cosmos ? Oh, il y en a plein, mais il reconnaissait qu'en dehors des rogations qu'il faisait dans toute la région de Venise et qui attiraient tous les jeunes dans les serres et les innombrables lieux agronomiques, il n'avait pas beaucoup de ressources pour parler de ces choses qui étaient évidemment en désuétude dans beaucoup d'autres parties de l'Église. Mais dans la Vénétie, ça restait important, ces rituels. C'est vrai qu'ils ont été regardés un peu comme des survivances, disons. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison. Ceci dit, c'est un jeu dangereux que joue le pape, hein, parce que le retour à la terre, ça a pas mal d'autres connotations. La terre ne ment pas. Enfin, bref, il y a toute une série d'autres associations, mais qu'il faut accepter d'absorber politiquement. Et je pense que cette crise des identités qu'on entend en ce moment joue à la fois en résonance et en contradiction avec la question du retour de la terre. Non pas le retour à la terre, mais le retour de la terre. Et donc, ça libère et ça complique terriblement les choses. Parce que si vous allez dire maintenant à un paysan français de l'abri, qu'est-ce qui le libère? Est-ce que c'est la modernisation de l'agriculture qui dure depuis le roman de Zola, La Terre, ou des agricultures, des formes d'agriculture différentes? La libération va aller dans... Enfin, il y a précisément un conflit de libération. Ce qui est là où le pape libère, je pense que le mot que vous utilisez est juste, c'est pour ça qu'on a dit que c'était le manifeste du Parti communiste venant du Vatican. Après tout, libérer les paysans, c'est un vieux thème révolutionnaire. C'est qu'il enlève la nécessité du front de modernisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus intimider, enfin, vous pouvez toujours, naturellement, mais ça devient plus difficile avec l'encyclique, à cause de ces deux rebroussements. Vous ne pouvez plus intimider un agriculteur en lui disant c'est la voie de la modernisation, donc vous n'avez plus la parole. La prise de terre, autrement dit, qui définit, enfin, je ne sais pas si vous suivez cette littérature sur l'agriculture, mais partout dans le monde maintenant, la prise de terre par la Chine, par les pays du Golfe, etc., est une prise de terre exactement, aussi encore plus brutale que la prise de terre qu'a connue le continent d'où vient le pape. C'est important qu'il vienne d'un pays qui a été, dont les populations ont été exterminées par une prise de terre occidentale. C'est évident que ça résonne dans le texte constamment, cette notion de prise de terre. C'est aussi, je le signale, ce à quoi Evelyn et Schmitt font allusion toujours quand ils parlent de théologie politique. Donc là où il y a une libération, je crois que vous avez raison d'utiliser le mot, c'est de dire non, on ne doit plus vous intimider avec le front de modernisation. Parce qu'on est en train de rebrousser chemin. Nous tous, on est tous en train de chercher un chemin à rebours qui n'est pas réactionnaire, mais il n'est pas utopique. Il place l'utopie, enfin le progressiste du côté de l'utopie et du offshore. C'est ça qui est très très intéressant comme figure de parole. Ça aurait été sensationnel d'avoir un commentaire de Peggy de ce texte. On imagine, il y a des tas d'éléments de synthèse de ce que Peggy essayait de faire sur le sol, sur la terre, sur le séculier, sur le terrestre, qui aurait, on aurait eu 400 pages des cahiers. Sur Joachim de Flore, l'agnostique. Un spécialiste de Joachim de Flore.
Plutôt d'agnostique, je pense.
Celui-là même qui vous a offert le livre.
Bon, merci. Je l'ai lu attentivement, grâce à vous.
Merci beaucoup pour votre conférence. J'étais très intéressé, entre autres, par vos références à la pensée du père de Lubac. Henri Dulbach, c'est quand même, c'est de fait, engagé considérablement contre le dualisme nature surnaturel. Ce qui frappe toujours aussi chez lui, c'est qu'il a en même temps tenu l'idée d'un paradoxe. Il aimait beaucoup dire, par exemple, il recourait à l'image de l'homme boiteux, la claudication. Il disait, il faut absolument, d'un côté, surmonter le dualisme nature surnaturel, de l'autre, il faut tenir que l'être humain n'est pas purement simplement dans le naturel. Il a en quelque sorte un pied dans le naturel, mais il boite parce qu'en même temps, il est porteur d'une vocation surnaturelle. Le père Dulbach voulait toujours maintenir ce paradoxe. Et alors, je pensais une alternative par rapport à cela, ce serait peut-être au fond la première grande théologie chrétienne, qui est celle d'Irénée au IIe siècle, qui est une théologie résolument antignostique. Et où il y a de fait très peu de critiques du paganisme. Je me disais ça en vous écoutant, c'est tout à fait intéressant à relever. Alors justement, Irénée, lui, non seulement il montre du doigt la terre, mais il va même jusqu'à dire, en partant d'un texte de l'Apocalypse, que les justes sont appelés à vivre sur terre pendant 1000 ans avec le Christ. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a à choisir entre ces deux représentations, elles ne sont sûrement pas à opposer. Mais il me semble que dans la théologie chrétienne, il y aurait peut-être à la fois d'un côté une représentation qui maintiendrait la nécessité quand même ou l'exigence d'un paradoxe nature surnaturel, tout en refusant bien sûr le dualisme, et de l'autre une représentation plus dans la ligne d'Irénée qui tendrait davantage à montrer du doigt plus résolument encore la terre, la terre, la terre. Voilà. Alors, ça sera un peu ma question. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce conflit entre deux représentations possibles qui ont eu chacune, je crois, une postérité et qui ont en tout cas des témoins dans l'histoire Et puis, est-ce que l'audacity se situerait plutôt dans une ligne que dans l'autre? À vous entendre, j'aurais plutôt l'impression que l'audacity serait plutôt dans la ligne de la théologie d'Irénée.
Mon ignorance m'empêche de penser. Mais juste un point sur... est-ce qu'on peut avoir le paradoxe sans le dualisme? Parce qu'au fond, c'est ça, ma théologie, à moi, si je peux me permettre, enfin, du moins l'exploration, cette méfiance dans l'idée du dualisme ou de son dépassement du... Enfin, je suis encore plus méfiant du dépassement du dualisme que du dualisme. Et donc, pour des tas de raisons qui sont dues justement à l'histoire des sciences, disons. Et donc, c'est une très belle formule. Est-ce qu'on peut avoir la claudication, le paradoxe, qui est le paradoxe religion contre religion, pour prendre Asman, c'est-à-dire la question de la fin, la question apocalyptique et la question de la continuité et du maintien par des rituels de la continuité du monde, disons, ce qui n'est pas le rapport immanent, transcendant, c'est autre chose, c'est une histoire dans laquelle nous sommes rentrés, d'avoir des religions, et la contre-religion, disons, les religions du salut d'un côté et les religions du cosmos et du civique de l'autre, mais délivrées, complètement délivrées, d'une tradition dualiste qui est, en quelque sorte, hantée ou projetée à partir du XVIIe siècle sur la théologie. Est-ce que c'est faisable, ça, comme construction? Le paradoxe sans dualisme, ni sans le dépassement du dualisme, parce que le dualisme a toujours été dépassé, en fait. C'est ça le problème. Et quand on dépasse le dualisme, on fait un troisième artefact qui est le dépassement d'un artefact. Donc, alors qu'il me semble que ce que j'entends dans la grande tradition que vous m'attribuez, je suis très content de cette tradition d'Irénée, c'est quelque chose d'autre que le mot paradoxe capte, mais pas dualisme, ni dépassement du dualisme. Ça a un sens ce que je dis en théologie ou pas? Non, pas vraiment, d'après le visage dubitatif de mon
interlocuteur. Je ne crois pas. Michel, peut-être qu'il faut préciser ce que tu penses.
Merci beaucoup. Enfin, je crois de fait, enfin, chez Irénée, il n'y a absolument pas de dualisme. Enfin,
c'est ça. D'accord.
Je crois que, de fait, on est bien en deçà des distinctions ou des différenciations ultérieures entre nature et surnaturel, religion contre religion, pour prendre ce langage.
Mais vous n'avez pas, alors à ce moment-là, excusez-moi, je pose ma question, parce que moi je voudrais aussi apprendre. Est-ce que ce point de régression dont je parle avec Laudato Si signale quelque chose de nouveau en théologie de ce point de vue-là, ou bien est-ce que c'est un... Non ? C'est quoi la position des théologiens d'ici, qui sont quand même spécialistes de cette question, alors que je ne le suis pas ? Est-ce que je délire en attribuant à ce texte une originalité qui est due uniquement à mon ignorance, en fait. Et vous, François, qui devriez être sur cette estrade, et pas moi, ça n'a pas aucun sens.
Oui, non, je pense qu'effectivement, oui, il y a quelque chose de... une expression intéressante employée dans les années 60, c'était le tournant anthropocentrique de la théologie. Alors, qu'on peut comprendre, c'est-à-dire au sens de réhabiliter la personne humaine, sa liberté dans l'action, en réaction contre une théologie du péché originel, enfin, qui dépréciait l'humanité. Mais alors, du coup, on restait dans ce dualisme, d'une certaine façon. Or, oui, on peut dire que la théologie plus contemporaine...
Une théologie géocentrique, ça existe, ça?
Oui.
D'accord.
Oui, ça
pour le tournant ça géocentrique dessine, de la théologie.
Ça se dessine. Ben, oui, pourquoi pas. Un théologien que vous connaissez un petit peu, qui est Northcott, il fait ça.
Ah oui, lui, il serait à fond géocentrique. Oui.
Ben voilà, donc il y a quelques exemples quand même. Quelques exemples. Non, mais peut-être plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, mais enfin... On s'y emploie.
Le terme d'ailleurs étant souvent cosmocentrisme dans les articles, plus que géocentrisme dans la tribu de
théologien. Un théologien anglican que j'appelle un théologien du carbone. Très intéressant, hein. Lecteur de Schmitt en plus.
C'est juste pour poursuivre sur ces questions. J'étais très intéressé par parce que vous avez dit, et puis cette insistance, oui, maintenant on regarde du côté de la Terre. Il reste la question que vous avez posée à la fin de l'humanisme, et quand même de se reposer la question de l'homme, parce que quand on entend ce que vous dites, il y a quand même, pour moi, ce qui me venait en tête, c'est que contre le gnosticisme, il y avait eu déjà une étape qui était ce retour à l'être humain, quoi, qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église, qu'on retrouve à partir de Vatican II, de recentrer sur l'être humain, quoi, qui est une manière, quoi, de comprendre l'incarnation, quoi, voilà, d'une certaine manière. Et là, avec le pape, il est temps, quoi, du côté de la Terre et de l'environnement, ça repositionne. Mais du coup, se repose la question, quoi, comment est-ce qu'on va réinterroger le rôle de l'être humain, quoi, là-dedans. Alors vous, en tant qu'anthropologue et du point de vue philosophique, vers quelle voie ça vous fait aller, quoi?
J'en ai parlé à la fin parce que j'ai même mieux évité la question, mais je pense que ça, c'est le thème du... Gaïa n'est pas une figure... Gaïa est une figure dont je n'ai pas parlé, mais qui est une figure séculière, et non pas divine. Enfin, je pense que c'est très intéressant que la première figure absolument pas religieuse de la Terre, c'est Gaïa. Donc c'est une figure qui est justement... La Gaïa de Lovelock, j'entends, la Gaïa scientifico... Oui, scientifique, à la Lovelock. Précisément parce qu'elle n'est pas... Il n'y a aucune métaphore de l'organisme. Enfin, elle n'est pas un organisme. Et elle pose une question du rapport à la Terre, des humains, sous la forme de terriens plutôt que d'humains. Et donc, il faut là refaire de la théologie politique en reposant les quatre questions que j'ai posées, c'est-à-dire c'est quoi les dieux, c'est quoi le peuple, c'est quoi son sol, c'est quoi son nomos, c'est quoi ses lois, et non, c'est quoi son cosmos. Mais pour répondre à votre question, il faut accepter de passer par une phase difficile que j'attribue, moi, à un personnage qu'il est difficile de citer dans ce contexte, mais qui est important, qui est Schmitt, Carl Schmitt, qui est la redéfinition du rapport de conflit, disons, sur les questions écologiques. Vous parliez des OGM, monsieur, tout à l'heure, les deux questions sont assez liées, en fait. Il faut reposer la question de savoir qui sont nos amis et nos ennemis, disons. Et les termes, ce qu'il y a d'irritant et de constamment... disons, démobilisateur dans une espèce de flot de bons sentiments qu'on a en ce moment sur l'écologie, en particulier sur la COP21, c'est cette idée que c'est les humains qui, parce qu'ils sont sur la même terre, vont prendre en compte les mêmes choses et vont s'accorder. Ben, c'est pas vrai. Sur les OGM, on s'accorde pas. Sur l'eau, on s'accorde pas. Sur le climat, on s'accorde pas. Sur la nourriture, on s'accorde pas. Sur le territoire, on s'accorde pas. Et le déni d'une situation de conflit, de guerre, de vraie guerre au sens de Schmitt, c'est-à-dire sans arbitre pour, et en particulier pas la nature comme arbitre, ni le marché, il faut, pour répondre à votre question, il faut arriver à l'absorber. Donc est-ce que c'est des humains? Je dramatise un peu les choses entre les humains et les terriens. Est-ce que c'est un conflit d'humains et terriens? Il faut accepter de redémultiplier tout ce que la notion d'humain, même si humain ça vient d'humus, c'est que il y a bien le sol et le compost dedans, c'est un peu loin quand même. Et surtout, c'est trop unifié, l'humain. Ça, c'est un vrai problème politique. C'est pour ça que je les ai laissés de côté, ne pas me lancer dans cette affaire.
Trois prises de parole, donc Yves, Bruno et Patrick.
Merci beaucoup pour votre exposé très dense. J'aimerais éventuellement que vous reveniez un peu sur... Laudate aussi, première contestation de la gnose. Et peut-être pas seulement dans le sens de, si j'ai bien compris, une gnose qui serait plus ou moins assimilée à une science qui aurait perdu le contact avec une réalité terrestre ou terrienne, mais aussi première contestation d'un certain type de gnose dans le discours religieux habituellement tenu. Et je crois que le retentissement de l'encyclique par rapport à beaucoup d'autres s'expliquerait du fait que, je ne sais pas, il trouve un ton,
oui,
permet de en quelque sorte toucher tout le monde, alors que souvent le style des encycliques est un peu, comment dire, désolant et comme lié à un milieu strictement religieux. Et j'en profite pour dire que ce qui m'a beaucoup réjoui pour ma part dans l'encyclique, c'est quand même, et ça a été souligné dans différents commentaires qui ont été faits, c'est quand même la présence de l'écriture sainte, de la Bible. À travers des allusions discrètes à la création, mais enfin, à l'évangile, il y a quelque chose de très évangélique, enfin, et lié aussi à l'évocation du cantique des créatures de François d'Assise.
Oui, c'est-à-dire que le ton, il suffit de lire la partie de l'encyclique précédente de Benoît XVI, avec la longue partie sur, disons, théologie écologique, pour voir la différence. C'est assez rare d'avoir l'évangile de Saint-François et le marché du carbone et les finances dans le même, presque dans les mêmes paragraphes, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Il n'est pas formidablement écrit, mais le ton est différent, je crois que vous avez complètement raison. J'espérais, du fait que j'avais des amis jésuites, avoir des informations sur la façon dont ça avait été écrit. Mais j'ai posé plusieurs fois la question à François. Apparemment, il ne savait rien sur la façon dont c'était écrit. Donc ça, enfin, avant, peut-être maintenant, on le sait, mais... Et j'aimerais en savoir plus sur la procédure, la façon dont c'est écrit. Non, j'utilise... Cette extraordinaire expression de Voeglin, immanentisation, comme signe de quelque chose qui... Parce que le texte de Voeglin est un texte politique, de science politique. Et donc de dire, oui, mais la façon dont vous considérez l'ici-bas n'est pas une façon matérielle, c'est une façon idéaliste de parler de l'ici-bas. Et donc, on va parler effectivement de choses mondaines, le marché du carbone, etc. Et évidemment, on va utiliser l'évangile. L'évangile, c'est mondain aussi. Mondain au sens, pas des mondanités, mondain au sens mondaine, enfin, au sens terrestre, disons. Et je pense que vous avez tout à fait raison. C'est ce lien-là dans le style, mais même s'il y a plusieurs auteurs, il y a quand même un style. Je ne sais pas, il y a plusieurs auteurs, n'est-ce pas? Il y a forcément, il doit y avoir plein de gens qui ont écrit. Il y a un cardinal allemand, je crois, etc. C'est ça? Non. Ils sont peut-être dans cette...
C'est plus que moi.
Peut-être même il y a des auteurs dans cette salle, je ne sais pas. Mais il y a une tonalité, ça c'est sûr. C'est ça qui sent le rebroussement.
Oui, je voudrais revenir sur la question du gnosticisme, qui est aussi une manière de séparer le corps et l'esprit. Alors, du coup... On pourrait dire qu'il y a des théologies qui ont pensé l'incarnation dépassement de la dualité ou du dualisme corps-esprit. On peut le penser, mais on peut le surmonter, le dualisme aussi, par l'action, c'est-à-dire le soin. Alors je pense que tout ce qu'a manifesté le christianisme dans l'histoire, à savoir prendre soin du corps de l'autre, c'est une manière aussi de s'incarner, de rompre la division entre le corps et l'esprit. La tradition juive est extrêmement intéressante là-dessus aussi. Le fameux Rabbi Salanter que Lévinas aimait beaucoup citer, « Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi. » Donc une manière, si vous voulez, de dépasser cette tension-là. Et du coup, la tension, elle est dépassée par le soin de l'autre. Mais peut-être ce que le christianisme a oublié dans l'histoire, en se centrant sur la personne, c'est qu'il a oublié peut-être, il n'a pas oublié la personne dans un corps social, un corps politique, mais il a peut-être oublié la personne dans le corps du cosmos. Alors du coup, avec la figure du soin, la figure du soin de la personne, la figure du soin du corps social et du corps politique, il y aurait une autre figure du soin, c'est la figure du soin du cosmos ou de la Terre. Alors, évidemment, le corps de la Terre, finalement, aussi, on pourrait peut-être penser comme ça.
Bon, on réutilise la phrase du rabbin sur la Terre, ça donnerait quoi? Ça donnerait les besoins géologiques de la Terre.
De ma sœur mère, la Terre, sont des besoins spirituels pour moi.
Sont des besoins spirituels pour moi. Ça serait une belle... un beau renversement. Ça résoudrait votre problème, monsieur, parce que vous aviez posé sur les OGM. C'est pas d'attribuer aux OGM une âme, c'est d'entendre la question du soin, et du coup, c'est ça la demande spirituelle. Ça, c'est un beau renversement de la morale. Je réponds moralement à une demande, un cri, à une clameur. La clameur est de la belle expression c'est, du pape, c'est clameur. Malheureusement, c'est lamento. Dans le, ça, c'est super. Le grand lamento de la terre. C'est quand même sensationnel d'entendre ça.
Et vous évoquez ce point de rebroussement, ces points de rebroussement qui sur lesquels convergent des amis improbables, aussi bien le Vatican que des activistes écologiques. Bon, très bien. Est-ce que il n'y a pas, au fond, pour le traduire, dire dans la perception de l'urgence et du coup dans ce qui rend à nouveau actuel une vision apocalyptique du temps dans lequel nous sommes, est-ce que le risque de malentendu n'est pas, encore plus accru entre la tradition chrétienne et puis d'autres qui peuvent être aussi sensibles à ce moment d'urgence dans lequel nous sommes, au sens où, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le christianisme prétend en même temps, et c'est extrêmement difficile pour nous à penser, que la fin est arrivée, mais la fin comme salut. Est-ce qu'on peut parler de salut dans l'état actuel du regard que l'on porte, que les scientifiques vont porter? Est-ce qu'il est encore possible d'affirmer un salut déjà? Que signifie cette parole pour des scientifiques? D'oser affirmer qu'il y a un salut de ce qui semble bien au contraire courir à sa perte de manière... Et auquel cas, l'homme deviendrait l'opérateur du salut, ce qui en christianisme devient impensable si on s'en tient là.
Ça, c'est une question très difficile, mais... j'y passe beaucoup de temps dans le livre sur le Gaïa parce que il y a un terrain commun aux scientifiques et aux chrétiens, disons, sur cette question, qui sont tous les deux accusés d'apocalyptique, de discours catastrophiste, qui est la version basse, ou d'apocalypse pour les gens un peu plus lettrés, disons. Et donc, je connais des scientifiques qui n'ont aucune culture religieuse, qui se trouvent aussi accusés de catastrophisme et de tenir des discours apocalyptiques. Et mon conseil est de dire, dites oui, je tiens un discours apocalyptique. Parce que le discours apocalyptique, c'est justement, c'est d'être dans la situation d'apocalypse. Mais ensuite, ça continue. Le lendemain, ça continue. Et donc, c'est la conversion dont parle le pape. C'est ça qui est la dimension spirituelle de la question écologique. Et il est très embêtant de refuser l'apocalypse. D'ailleurs, une grande partie du travail que je fais, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des climato-sceptiques, où il y a des gens indifférents, ou ce que j'appelle des climato-quiétistes, c'est-à-dire de penser qu'au fond, les choses vont s'arranger, le temps a toujours changé. Ce qui est dit d'ailleurs par l'Académie des sciences en France. Nous sommes la seule Académie des sciences où il y a ce genre de situation. Et beaucoup d'intellectuels français, la quasi-totalité des intellectuels français, et climato-quiétiste. Eh bien, je pense que c'est aussi un rapport à l'apocalypse. C'est-à-dire de dire, et ça, c'est le cœur du gnosticisme, précisément, c'est de dire l'apocalypse, mais on l'a passé. C'est fini, les gars. On est sauvés maintenant. Et c'est quand même extraordinaire que le pays où la notion d'apocalypse est la plus importante, c'est-à-dire cette idée d'être de l'autre côté de l'apocalypse, c'est les États-Unis, c'est aussi là où les climato-sceptiques sont devenus une espèce de... c'est devenu la définition même pour beaucoup d'Américains, en tout cas des Républicains. C'est-à-dire, nous sommes immunisés contre le discours apocalyptique. Tout ce que vous dites, c'est très marrant, parce que c'est dans le renvoi. Vous êtes des catastrophistes, vous avez un discours apocalyptique, parce que nous sommes passés de l'autre côté. Et c'est bien cette opération-là que les gnostiques, au sens technique du terme, de Joachim de Flore, c'est exactement l'opération, puisqu'on attend un autre. L'histoire du Christ, c'est fini, c'est passé. Nous, on est maintenant immunisés contre la possibilité que le modernisme ne soit pas assuré, que la modernité ne soit pas assurée. Seulement, comme ils n'ont pas la tradition apocalyptique pour de vrai, parce qu'ils ne sont pas religieux pour de vrai, ils ne peuvent pas remonter sur cette tension, sur ce paradoxe dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ils sont dans la situation que a décrit d'ailleurs admirablement Gunther Anders à propos d'une autre apocalypse, qui est l'apocalypse nucléaire dans les années 50, c'est-à-dire de nier que nous soyons dans une situation apocalyptique. Et c'est très beau, justement, ce point de rebroussement. Alors, évidemment, si vous posez la question, Est-ce que, quand je parle à mes amis climatologues, si je leur dis vous devez tenir un discours apocalyptique, je ne suis pas sûr qu'ils me suivent. Mais c'est aussi par une immense ignorance de la tradition religieuse. Donc ils ont un bout de la tradition sécularisée, disons, de l'apocalypse. On est moderne, on est passé de l'autre côté. Nous, on est dans le royaume de l'esprit, disons. On n'a plus à s'occuper de la question de l'incertitude continuelle dans laquelle on était du temps du Fils. On est dans le royaume de l'esprit, et ce qui veut dire l'écologie, c'est pas pour nous. Rien ne va nous arriver. Avec cet étonnant moment, je ne sais pas si vous connaissez, au Congrès américain, où un des grands, le président, j'ai honte de le dire, mais le président du comité sur l'environnement, citant la phrase de la Genèse sur le fait que Dieu a promis qu'il n'y aurait pas d'autre déluge, enfin, il promet à Noé qu'il n'y aurait pas d'autre déluge, comme preuve que, évidemment, la science climatologique est fausse. Là, on est dans une situation quand même très, très étonnante. Rien ne peut plus arriver à ces gens-là. Ils ne peuvent plus rien entendre. Et ça, c'est une des causes du climato-scepticisme. Donc, il faudrait beaucoup de temps, mais il y a un lieu où cette question-là, vous êtes catastrophiste, vous êtes apocalypse, vous tenez des discours apocalyptiques et portés comme une accusation par des gens qui se pensent immunisés définitivement contre ça. Et je crois que dans une version laïcisée et républicaine, c'est le cas, disons, des intellectuels français, en gros. Tout ça, c'est des histoires, mais non, qu'est-ce que vous voulez. C'est des agités qui croient qu'il y a des trucs de transformation du climat, etc. Tout ça, c'est faux. C'est pas dans des îles lettrées. C'est au contraire la version lettrée du rapport à l'écologie en France. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais c'est très étonnant.
Oui, monsieur Renoir, vous posez une question ?
Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport à une perspective de type panenthéiste, qui est par exemple dans la tradition orthodoxe, notamment le patriarche Bartholomée que le pape cite, très sensible à cette idée d'une sacralité du monde, donc pas du panthéisme, mais du panenthéisme, qui invite, quand on lit le patriarche, à développer une vision, enfin un rapport au monde qui est à la fois de l'ordre de la contemplation et du prophétisme activiste, on pourrait dire. Du coup, est-ce que c'est une manière aussi de dépasser le dualisme ou de...
Oui, mais comme je l'ai dit, malheureusement, je crois que c'est toujours pire quand on dépasse les dualistes. On fait toujours pire.
Est-ce que vous pensez que c'est un dépassement ?
Ben, non, mais le problème, c'est que le dualiste est toujours là, simplement il est dépassé. Il est aufheben. Et le problème, c'est qu'on ne revient pas avant. On a parlé d'Irénée tout à l'heure en disant c'est avant. Ben oui, mais ça c'est intéressant, les trucs avant. Ça veut dire qu'on est avant une bifurcation, ce que Whitehead appelait bifurcation de la nature, et... L'inconvénient, encore une fois, ça dépend comment on parle. Si c'est en termes de prêche, c'est sûrement juste, parce que la vérité des conditions de félicité des êtres religieux est complètement différente. Mais si on parle, disons, comme on le fait ce soir, dans un mode qui est celui, disons, de la philosophie ou de l'anthropologie, l'inconvénient du panenthéisme, c'est que ça dissimule le paradoxe dont on parlait tout à l'heure. Ou plutôt, on confond le paradoxe avec sa projection dans une définition du cosmos. Et s'il y a quelque chose, j'ai une grande admiration pour la théologie orthodoxe, mais s'il y a un truc qui est compliqué, c'est de réconcilier avec les sciences. La grande qualité des orthodoxes, c'est qu'ils sont justement dans une tradition qui est encore en quelque sorte d'avant les sciences. Mais nous, on a 3 siècles de constant mélange et... confusion, combat, etc., avec les sciences naturelles, ex-sciences naturelles. Et donc, je crois qu'on aurait plutôt intérêt, plutôt que de trouver une autre formule de dépassement, de dire, mais attendez, c'est absolument... On parle de choses qui n'ont rigoureusement rien à voir. Les sciences sont entièrement tournées vers le lointain. Ce sont des apprentissages du lointain. Ce sont des apprentissages de la distance, des instruments qui permettent d'accéder au lointain. La religion, c'est une recherche du prochain. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Et donc, toute solution qui rend au cosmos qui utilise le cosmos en lui donnant une coloration sacrée, ne résout rien, finalement. En tout cas, dans notre tradition, à nous, qui devons continuer à profiter, ce que je dis est compliqué, il faudrait plein de choses, parce que votre question est très importante et très difficile. Nous voulons continuer à profiter de la sécularisation. Néanmoins. D'ailleurs, le sacré, le pape, ce n'est pas une question de sacré, c'est une question de soin. Donc je ne suis pas sûr que les modernes, démodernisés et retrouvant leur et rebroussant chemin, manquent de sacré, ou que le sacré manque. D'ailleurs, la notion même de sacré chez les autres cultures est une immense notion extrêmement disputée. Donc je suis sceptique, disons. Je vois la beauté de prêche, mais pas la beauté philosophique de. Je pense que c'est une de ces nombreuses solutions qu'on a trouvées pour dépasser un dualisme dont, sur la bifurcation duquel on n'est pas remonté. Et tous les efforts de la grande philosophie Whitehead et des autres, c'est de remonter à avant la bifurcation. Et donc de ne pas avoir à dépasser les dualismes, mais qu'il n'y a pas de dualisme. C'est des catégories, des erreurs de catégories complètes sur des modes d'existence qui n'ont rien à voir. Et donc, je vais trop vite, mais c'est un problème très important. C'est comme le panthéisme, c'est des trucs qui ne résolvent rien, ça. On a beau les mettre dans tous les sens, ça fait des dissertations, le fils, c'est toujours... Mais par contre, quand le Bartholomé prêche, c'est splendide. Donc le problème, c'est que tous ces sujets ne sont pas des sujets pour discussion philosophique, c'est des sujets de prêche et de rituel et de sacrement. Donc ça, évidemment, ça fait un boulot sensationnel dans ces ordres-là. Dans l'ordre de la philosophie, Donc là, je vous ai donné un point philosophique sur, qui est tout à fait injuste sur Bartholomé, d'ailleurs.
Oui, je prends. Vous avez parlé du sol au début, et donc je vais revenir un peu plus terre à terre. Et l'encyclique s'adresse dans un style, un ton très lisible, très particulier. Un ton très grand public, très lisible, aux hommes de bonne volonté en général. Et donc, je me permets de sortir un peu du terrain théologique qui me dépasse. J'ai une vision des choses qui est que dans le corpus catholique, il y a le partage, et le partage, c'est le développement et la proximité avec les pauvres. Et là, dans une terre très nombreuse, le partage ne suffit plus et on nous appelle à la sobriété. Et vous n'avez pas parlé d'esthétique. Il y a la sobriété parce que, pour moi, la façon de lire les choses, c'est que la nature est belle. Et le pape le dit, il faut enseigner aux jeunes l'esthétique. Et c'est l'esthétique de la nature, donc des choses très terre-à-terre qui vont permettre de passer à ce point de rebroussement où il y aura finalement ce qu'il appelle le pape une société riche, riche en sciences, riche et sobre. Et donc c'est l'esthétique qui nous peut conduire à régler cette contradiction entre richesse et sobriété. Est-ce que ça vous... parle,
j'ai été comme vous
purement esthétique, quoi. C'est-à-dire, c'est l'esthétique qui est la solution, enfin, ou la poésie de Saint François, qui est une partie de la solution. L'esthétique de la nature. Parce que la nature est belle, qu'il faut être sobre.
Si vous faites un branchement entre l'esthétique et Carl Schmitt, ça va fonctionner pour moi, mais il va falloir repolitiser. Non, c'est très beau, j'étais comme vous, très ému du fait que. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas souvent chez les écologistes, c'est-à-dire ce scandale du pape à l'idée que non seulement vous êtes pauvre, mais vous êtes en plus dans des environnements ruinés qui sont devenus laids. Et ça, c'est un truc qu'on n'ose plus du tout dire, parce que d'abord, vrai, beau et laid, on a immédiatement 40 arguments postmodernes pour dire que ça, c'est une version archaïque de la question. Mais l'attribuer aux pauvres, comme un scandale pour les pauvres, et ce retour de l'esthétique comme une partie du soin, ça, je crois que c'est très important. Mais ça m'intéresse, mais j'ai pas de choses particulières à dire de ça. Mais vous avez raison de le souligner, parce que ça m'a énormément frappé aussi. Je ne sais pas si c'est très commun, mais les pauvres, en plus de tout, souffrent du fait d'un des environnements laid. Et c'est souligné trois fois dans l'encyclique. Ça, je trouve que c'est un très très important argument et les conséquences en termes de redesign, disons, de la planète sont très importantes. Mais il va falloir quand même passer par la politique et la guerre et la paix avant.
Je me donne la parole, du coup. Je me demande s'il n'y a pas un point de rebroussement entre les travaux les plus récents que vous avez faits et les chantiers actuels de la théologie contemporaine au monde catholique et protestant. Autour de la théologie de l'Esprit-Saint.
De quoi ?
De l'Esprit-Saint.
Ah.
Parce que sur l'immanentisation...
Je ne vais pas parler de l'Esprit-Saint, c'est embêtant.
Apparemment, la théologie l'a aussi mis de côté pendant quelques siècles, et c'est et du coup le retour de l'Esprit Saint pose des questions théologiques, justement pour sortir du dualisme. Et j'ai l'impression que ce qui se cherche aujourd'hui, c'est du côté du pluriel, un peu comme la pluralité des modes d'existence. Et ce qui me touchait en vous écoutant ce soir, c'est le fait que finalement le pape, si j'ai bien compris le lien entre la première et la deuxième partie, convoque un peuple, et ce peuple se retrouve chacun à sa manière et dans sa langue, appelé à faire un même groupe, les scientifiques dans leur science, les activistes dans l'activisme, les pauvres dans leur détresse, et puis les croyants. Et pour nous, du coup, ça nous pose une question théologique. Est-ce que, voilà, comment l'Esprit Saint appelle chacun dans sa langue, vraiment, ou dans son univers, dans ses conditions de félicité, comme vous dites? Je pense que là, il y a un chantier pour nous.
Un chantier pour l'Esprit Saint aussi, visiblement. Non, mais là, je crois que tu pointes sur quelque chose, c'est le pluralisme. Au fond, les arguments sur le dualisme dépassé ou pas dépassé, c'est toujours dualiste, ça fait toujours que deux. Il doit arriver un moment où la philosophie peut compter au-delà de deux. En fait, elle ne compte jamais au-delà de deux, parce que les deux sont liés, donc c'est toujours un, en fait. Et donc, le pluralisme, je crois me rappeler que le fait que c'est un dieu trine compte un tout petit peu dans la question, justement, que tu poses. Et donc, la question, c'est celle du pluralisme. Et c'est clair que les modernes parlent tout le temps du pluralisme au sens d'une multitude d'opinions auxquelles personne ne prête d'intérêt. Donc, évidemment, ça, c'est assez facile, le pluralisme, mais pas pluraliste des modes, pas pluraliste des façons de se connecter au monde. Là on n'est pas du tout pluraliste. Les modernes ne sont pas pluralistes. Les modernes, c'est un front de modernisation qui avance et qui ne connaît que la différence entre ce qui est avancé et ce qui va bientôt être, c'est précisément cette projection vers le futur. Et le futur, c'est offshore, le futur. Ce n'est pas quelque chose qui a de consistance. Donc, j'aimerais apprendre plus sur le pluralisme en théologie, mais tu me fais une perche, mais là je ne peux pas la saisir parce que je suis trop ignorant de ce qui se passe en théologie contemporaine, mais ça résonne en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être cette invocation de l'Esprit Saint va clore la discussion.
Mais peut-être pas, donc y a-t-il d'autres questions surtout? N'hésitez pas, ou simplement des réactions.
Elisabeth.
Moi, je me demande si, dans ce que dit Bruno, le retour de la terre par les sols crée une nouvelle alliance. Je trouve qu'il y a une définition d'une alliance nouvelle, donc une troisième alliance, qui est projeté, dessiné, esquissé dans l'encyclique. Et le type de... quand on regarde les grandes encycliques anti-modernistes de la fin du 19e, convoquer les sciences à la façon dont cette encyclique les convoque pour arriver à la notion de soin, c'est quelque chose d'extraordinaire pour une... Effectivement, là... Ce que tu ajoutes en accentuant et en pointant, en dessinant un retour de la terre par les sols, ça pointe la façon dont cette troisième alliance se dresse vers la notion de soin. Et ça, là, il y a des mots pensés ensemble, du vocabulaire de la psychologie, toutes sortes de vocabulaires qui n'étaient jamais pensés ensemble sont convoqués par cette nouvelle alliance.
Tu veux dire sol ou soin?
Sol et soin. Sol, soin, par les sols.
Sur troisième alliance, je ne veux pas, mais je voudrais t'entendre sur sœur. Terre, sœur.
Terre sœur.
C'est quand même assez rare en anthropologie d'avoir des sœurs sur Terre. Hein.
Moi, j'ai travaillé pas mal sur la parenté, et c'est vrai que pour moi, c'est extraordinaire. Terre, mère, sœur, c'est-à-dire, je pense que ça opère une sortie des idéologies de la mère, tu vois, de la et quelque chose qui la sœur, c'est un type de soin qui se libère du soin de la mère d'une certaine manière, même si la convocation de la mère n'est pas loin, puisqu'il associe ces trois.
Terre-sœur, terre-mère, oui.
Mais terre-sœur, sœur, c'est quand même, c'est ce que tu disais au début de ton texte, c'est que c'est quand même une libération d'un type de soin qui n'est pas loin d'une... qui est nourricier jusqu'à l'aliénation. Et là, aller chercher la sœur, c'est effectivement aller chercher les frères et sœurs, la fraternité, c'est vers l'égalité, quelque chose d'une relation de soin dégagée de la mère.
Et donc, des conséquences sur le culte marial? Non, mais Elisabeth est spécialiste de cette question, donc je ne peux pas ne pas la poser. La figure, mais ça va changer quelque chose à la
mère. Oui, parce que Marie est une mère d'un autre type. Mais ça, je ne vais pas me lancer dans Marie.
Mais sœur, non, mais il va y avoir des
conséquences. Parce que.
Ça va avoir des conséquences.
C'est, comme dit Irénée, quand Irénée, sa critique de la gnose passe par commune humanité, par exemple, et montrant comment le fait de quitter la matière et d'avoir un rapport à des grains de spiritualité différents pour les iliques, pour les différents types d'hommes, créerait des humanités séparées, tandis que aller chercher une naissance au Christ, une mère, etc., ça replace dans une commune humanité. Et ça, ce travail d'Irénée contre la gnose, en passant par une commune humanité, et non pas toutes les humanités des gnostiques selon l'ordre de ce qu'ils ont gardé leur rapport à la réminiscence, qui serait un rapport avec une spiritualité différentielle, avec des types d'humanité différents, ce qui était très grave. Si Irénée, la critique antignostique du 2e, 3e siècle, a repermis de réanthropologiser l'ensemble des hommes, ça c'est, et alors même qu'il se préoccupait de la terre, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez regardé.
Bon, heureusement, on a couvert quand même un sacré terrain.
Je crois que Bruno a encore envie de réagir, Bruno Santo. Oui, on a bien.
Je voudrais vous poser une question sur les conditions de transformation intérieure que chacun doit réaliser précisément pour rentrer dans ce mouvement. Quand Paul parle... le temps se fait court, le temps a cargué ses voiles, parce que on arrive dans un autre temps. Alors il dit, il met chacun dans la position du comme si. Dès lors que celui qui a quelque chose soit comme s'il ne possédait pas, etc. Donc on peut dire en quelque sorte, le rapport au temps induit dans le sujet un décentrement par rapport à sa propre position, que celui qui possède soit comme s'il ne possédait pas, etc. Puis tous les autres, voilà. Et donc... Et qu'est-ce qu'il y aurait à traduire de ça précisément en donc une vision théologique, mais elle n'est pas seulement théologique, elle est anthropologique, pouvoir être à la place d'eux, donc ne pas coller non plus à sa propre situation. Est-ce qu'il n'y a pas là des conditions pour justement opérer ce retournement intérieur?
C'est exactement l'argument de Gunther Anders, sous une forme, c'est aussi l'argument sous une forme simplifiée de Jean-Pierre Dupuis, etc., sur le fait que l'ennemi de toutes les questions écologiques, c'est aussi l'argument de Clive Hamilton, qui a écrit exactement sur le même sujet sans connaître du tout la théologie dont vous parlez, peut-être qu'il a lu Paul, mais c'est que l'ennemi, c'est l'espoir. Donc tant qu'on est dans l'espoir, les quiétistes sont en fait pleins d'espoir. On va s'en tirer, on va passer, c'est un peu comme de... Quand on passe des examens, on pense qu'on ne va pas être interrogé sur le sujet qu'on n'a pas pioché. Et Gunther Anders, et Dupuis, et Jonas, etc., disent la même chose sur l'Apocalypse. Il faut au contraire abandonner l'espoir pour être comme si. Et donc c'est ce moment de rupture, à ce moment-là, on peut commencer à prendre au sérieux. Et du coup, on est délivré de l'espoir. Sinon, il faut perdre l'espoir. c'est dur de faire l'argument simplement, mais puisque là vous parlez de Saint-Paul, on comprend. Le comme si, c'est ça. L'espoir est ce qui trompe. Parce qu'on pense qu'on va s'en tirer. L'espoir, c'est à partir du présent vers le futur. Disons, c'est des scénarios, disons. Tandis que l'Apocalypse, c'est... Non, non, c'est fini, les gars. C'est là où il y a un lien très étroit avec l'angoisse des scientifiques, qui est nouvelle. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment des scientifiques angoissés. Sauf ceux de l'Holocauste précédent, si j'ose dire, c'est-à-dire du nucléaire, de la question nucléaire. On est passé de l'un à l'autre, techniquement aussi, de l'un à l'autre. Et donc, je crois que vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je dis, si on vous accuse de discours apocalyptique, dites oui. Évidemment. On est dans une situation. Et maintenant, on peut commencer à travailler. Mais tant qu'on est dans les scénarios, on est dans le quiétisme où on balance des possibilités et des plausibilités. Non, la situation est une situation de rebroussement, c'est une situation apocalyptique, et c'est très bien. Enfin, voilà, ça y est, les modernes se croyaient de l'autre côté. Ben non, ils ne sont pas de l'autre côté. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est avant l'apocalypse ou après l'apocalypse ou pendant ? Si vous êtes avant, c'est rare. Je pense qu'il y a encore des gens avant l'apocalypse, ça veut dire des gens qui n'auraient jamais rencontré de modernes. C'est quand même assez rare, assez peu probable. Mais il y a beaucoup de temps après. La modernité est un dû. Rien ne peut plus nous arriver. Ça, c'est complètement délétère. Et puis, il y a ceux qui disent, mais non, il faut être dedans. Là, la situation redevient vraiment très intéressante.
Eh bien, je crois que votre conférence et vos... Et toutes vos questions étaient extrêmement intéressantes et que je pense que les craintes du public sont certainement levées. Vous étiez très... facile à comprendre, je crois.
Je vous ai dit que c'était du sens commun.
Mais en même temps, je crois que surtout, vous nous avez bien fait saisir la situation d'apocalypse dans laquelle nous sommes, au sens où vous l'avez développé. Et disons que je vous invite tous à lire Face à Gaïa, qui se lit bien. Enfin, bon, moi, je l'ai lu et je pense que vous n'aurez aucune... Enfin, vous lirez avec plaisir ce livre et surtout avec intérêt... parce que ça apporte une question tout à fait cruciale pour nous aujourd'hui. En tout cas, un immense merci.
Merci beaucoup. Merci, on a bien discuté.
Oui.